Radio Okapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Combat ce matin entre les FARDC et le M23 à Bikenke dans le retour au Nord Kivu. Pas de bilan disponible pour l'heure. La zone reste vidée de ses habitants depuis plus d'une semaine, mais ces derniers vivent difficilement dans leur lieu de refuge, rapportent des sources sur place. Plus de 160 maisons parties en fumée ce week-end dans le secteur de Nambelo, l'OMB, 17 km de Lodja, dans la province du Sankuru. L'origine du feu serait accidentelle. Les victimes se retrouvent sans abri et sollicitent une assistance humanitaire. Et puis, Chantal Kanimbo est l'invitée de ce journal. L'une des icônes de la télévision en RDC, rapporteure au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, première femme à diriger l'Union nationale de la presse congolaise, elle nous parle de son ouvrage publié récemment intitulé « Mémoire, les plus belles années de ma vie ». Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Des échanges de tirs ont encore opposé ce lundi matin les forces armées de la RDC aux rebelles du M23 dans la zone de Bikenke. C'est dans le groupement de Kisigari, territoire de Rutshuru. Aucun bilan n'est donné pour l'instant. La zone reste vidée de ses populations en déplacement depuis plus d'une semaine déjà. Le récit de Bernard Nyangi.
Les combats ont repris autour de 9h locales ce lundi, après une accalmie précaire ce week-end dans la zone, indiquent plusieurs sources locales. Elles précisent que ces affrontements sont situés dans la zone entre Bikenke et Rungoni, à cheval entre le groupement de Jomba et celui de Kisigari. C'est précisément à environ 17 km sud-est de Rutshuru Centre et 15 km au nord-est de Rumangabo. L'armée n'a pas encore communiqué sur ces affrontements. Pour les sources coutumières locales, cela se passe dans la zone vidée de ces populations civiles depuis plus d'une semaine. Dans les médias, on ne dispose pas assez d'informations pour établir un bilan. Ces sources civiles déplorent la précarité de la situation des déplacés venus de cette zone. Elles continuent de se dégrader dans leur lieu de refuge. Certains civils en déplacement vers Rutshuru Centre sont contraints de rester dans les zones de combat qui sont sous occupation des rebelles en groupement de Jomba pour tenter de se ravitailler. D'autres sources affirment qu'en représailles, plusieurs d'entre eux auraient même été tués ou torturés par les rebelles dans la zone de Kabindi, entre autres. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Du côté de l'Ituri, l'armée ougandaise et les FARDC ont repris depuis le week-end les opérations militaires contre les rebelles des ADF dans la région de Mont Oyo, chefferie de Walese Vankutu, au sud du territoire d'Irumu. Selon des sources de sécurité, cette force conjointe bombarde les positions de ce groupe armé qui tentait de se réorganiser dans la région à la limite entre l'Ituri et le Nord Kivu. La société civile locale salue la reprise des opérations qui, selon elle, doivent être intensifiées pour démanteler les bastions des ADF vers Zunguluka et dans la forêt de Kainama. Pour rappel, les deux forces avaient suspendu pendant quelques semaines la traque de ce groupe armé. Restons en Ituri. Vive tension dimanche au site de déplacés de Roé dans le territoire de Djougou, site qui héberge plus de 70 000 personnes. À la base de cette tension, le soulèvement de certains déplacés qui réclamaient de l'aide alimentaire suspendue depuis plus de 3 mois par les humanitaires. Selon des sources locales, plusieurs cas de décès, surtout des enfants, sont déjà enregistré dans ce site à cause de la famine. Le point avec Martial Kiza.
C'est dimanche matin que certains déplacés se sont soulevés au site d'Héro. Très vite, ces mouvements s'est ensuite intensifié à tous les pensionnaires du site. Hommes, femmes et enfants, tous organisés un sit-in devant la base de la Monisco située juste à côté de leur site. Des sources locales indiquent que ces familles sinistrées manifestaient leur mécontentement face au manque de nourriture dans ces sites. Selon un des membres du comité de déplacés d'Héro, c'est depuis plus de 3 mois qu'ils ne bénéficient d'aucune assistance humanitaire et médicale, ce qui a comme conséquence le décès de certains déplacés et l'accentuation du taux de décès. Ces personnes déplacées, estimées à plus de 70 000 personnes, plaident pour une intervention rapide du gouvernement et des humanitaires pour soulager leur misère. Elles disent n'avoir pas accès à leur chat à cause de la présence des hommes armés en errance dans la région. Nous n'avons pas encore réussi à joindre la conseillère du gouverneur militaire en charge de la solidarité et des affaires humanitaires ainsi que de Ocha à CCG. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. Une vingtaine d'enfants pygmées déplacés et en majorité orphelins vivent dans des conditions difficiles dans la ville de Butembo. L'alerte est du Parlement d'enfants de la région de Butembo-Lubero. Selon le président de cette structure, ces enfants ont fui depuis un mois les attaques des rebelles de l'ADF dans le territoire de Beni. Rigen Bangae lance un appel en faveur de ces enfants vulnérables. Le président du Parlement d'enfants de Butembo-Lubero explique la situation au micro de Grace Amzati.
Il y a 25 enfants qui sont déjà dans la ville de Butembo. La plupart de ces enfants, voire 90% de parents de ces enfants sont déjà morts. Ils sont encadrés par un déplacé aussi, qui est aussi à Butembo depuis près de 6 mois. Ils sont tous vraiment pygmés. Parmi ces enfants, le moins âgé, c'est d'ailleurs une fille qui a 3 ans et le plus âgé a 16 ans. Ces enfants continuent à être entassés dans une petite chambre. Ils n'ont même pas de matelas. Ils mangent difficilement. Cela cause un sérieux problème et cela a beaucoup de dangers sur leur santé. Ils descendent dans la ville demander quelque chose à manger pour leur bien. Alors notre crainte à ce niveau, c'est que il y a même de petits enfants, vous allez voir, un enfant de 5 ans qui va faire aussi des tours dans la ville toute la journée, sans rien prendre, et cela est vraiment difficile pour ces enfants. Et ils sont de plus en plus traumatisés avec tout ce qu'ils ont vécu, la mort de leurs parents dans leur territoire. Alors ici, arrivé à Butembo, ça devient encore plus grave et cela est très dangereux pour l'avenir de tous ces enfants qui ont aussi droit à la vie, qui ont aussi droit à la protection comme tout autre enfant de la République démocratique du Congo. Ici, on ne fait pas très attention, ils vont commencer même à mourir de faim.
Contacté à ce sujet, le maire de Butembo dit être au courant de cette situation et promet une assistance à ses enfants. Nord Kivu toujours, une délégation du diocèse catholique de Noto en Italie séjourne depuis 2 jours à Beni, conduite par l'ancien vicaire général de ce diocèse. Elle vient compatir, dit-elle, avec la population de la région, victime des attaques armées caractérisées par les tueries des civils depuis quelques années. Hier, une messe de paix et de compassion a été dite au sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe, au centre ville de Beni, reportage de Guylaine Kassassia.
Dans son homélie, l'ancien vicaire général du diocèse catholique de Noto a d'abord condamné les tueries des civils à Beni. Selon Mgr Cheruto Salvatore, la poursuite de ces actes contre la population innocente est inacceptable. Ce prêtre catholique a ensuite lancé un message de paix, d'espoir et de compassion à la population de Beni. Aux jeunes, il a demandé à ne pas se laisser dominer par l'esprit de la violence et du banditisme qui pourrait avoir l'incidence sur la situation sécuritaire de la région. Présent à cette messe, le maire de Beni a salué la présence dans son entité d'une délégation du diocèse catholique de Noto. Narcisse Muteba Kachale parle d'une preuve de bonne relation diplomatique entre la RDC et l'Italie. Après la vie de Beni, cette délégation s'est rendue ce lundi à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Signalons que le jumelage entre le diocèse catholique de Butembo-Beni et celui de Noto en Italie avait été conclu le 21 avril 1988. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Nous venons de l'apprendre, dans la province du Sankuru, plus de 160 maisons ont été incendiées entre vendredi et samedi 2 juillet dernier dans le secteur de Nambelo-Loembe, dans le village Elongé. C'est à 17 km de la ville de Lodja. Le feu serait d'origine accidentelle d'après des sources sur place. Les sinistrés vivent actuellement à la Belle Étoile et sollicitent une assistance humanitaire auprès des autorités du pays et aux organisations humanitaires. Récit des faits avec Esther Ndalafina.
D'après les sources sur place, le feu qui a consumé les maisons est parti d'un champ où une femme tentait de brûler les mauvaises herbes aux côtés des maisons. Un vent violent a emporté le feu jusqu'à brûler plus de 160 maisons, dont une école primaire et 2 églises. La même source affirme que plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. Les victimes de cet incendie passent actuellement la nuit à la Belle Étoile. Ils sollicitent l'implication des autorités pour une assistance humanitaire. L'un d'eux, Joseph Eyalé, s'exprime.
Incinérés, même de moto, de vélo. Alors nous venons maintenant auprès de notre gouvernement central qui est à Kinshasa et toute autre personne qui peut nous aider parce que pour le moment nous dormons à la Belle Étoile et puis on n'a presque rien, même des décombres. Nous ne savons plus que faire. Alors il y a un problème qui se pose maintenant, c'est la saison sèche. Il y a de froid avec nos enfants que nous on a, alors nous ne savons plus que faire.
Signalons qu'un autre incendie a consumé plus de 100 maisons, dont 4 écoles et 3 églises le jeudi dernier dans le territoire de Katakokombe, secteur de Basambala, groupement de Lutundula dans le village Yangunda. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Kassai Oriental, les femmes responsables des différentes organisations féminines de la société civile ainsi que des partis politiques sont montées au créneau après la publication la semaine dernière de l'actuel gouvernement provincial et s'insurgent contre la présence d'une seule femme dans ce nouveau gouvernement composé de 10 ministères au cours de quelques rencontres tenues la semaine dernière au siège provincial du cadre de concertation permanent de la femme congolaise, CAFCO. Les femmes demandent aux autorités provinciales du Kassai Oriental d'emboîter le pas au chef de l'État qui s'est engagé dans le respect des textes juridiques relatifs à la promotion de la femme et ratifié par la RDC, ce en nommant quelques femmes au sein du gouvernement Samalou Kondé. Gertrude Ndaya Biaya, présidente provinciale de CAFCO, s'exprime à cet effet au micro d'Esther Dalafina.
Ça ne nous honore pas, c'est comme si les femmes n'existaient pas. Au niveau de la province, on devait prendre l'exemple du chef de l'État. Le chef de l'État s'est vraiment impliqué pour augmenter la représentation des femmes au sein du gouvernement. C'est pour la première fois au fond que nous avons vu une chose pareille, les femmes représentées jusqu'à ce niveau-là. Le chef de l'État n'a pas seulement puisé au sein des partis politiques, il a puisé même à la société civile. C'est parce qu'à la société civile, il y a des femmes qui sont capables d'apporter aussi leur contribution dans la gestion de la chose publique. Donc cette situation qui se trouve au niveau national devait se répercuter aussi dans les provinces et ça aurait été un moyen pour soutenir la vision du chef de l'État. Mais nous avons tout comme l'impression qu'au niveau des provinces, au lieu d'avancer, on est en train de régresser.
Direction le Sud Kivu, signalons la recrudescence des cas d'accidents de route dans la ville de Bukavu. Le gouvernement provincial annonce des mesures fortes et obligatoires pour tout engin roulant ainsi que pour le chauffeur au volant. Des détails avec Emmanuel et la Meji Wakabedi.
Le dernier cas d'accident de route en date est intervenu dans la nuit de ce lundi 4 juillet 2022. Un conducteur, apparemment en état d'ivresse, s'est enfoncé dans l'église Philadelphie sur la route principale. Le bilan est de 2 blessés graves. Toujours la même nuit, un minibus de transport en commun a percuté 2 personnes presque au même endroit, là où les écoliers avaient été tués la semaine dernière. Ainsi, le ministre provincial des Transports a réuni ce lundi matin les principaux transporteurs du Sud Kivu. Monsieur Mathieu Alimasi annonce l'obligation d'un contrôle technique et bien d'autres mesures encore.
Pour éviter les accidents, il y a 3 pistes. Tous les engins roulants doivent aller au garage pour s'assurer de l'état normal du véhicule. Les véhicules qui transportent les marchandises ne doivent pas transporter en même temps, au même moment, les marchandises et aussi les personnes. Et enfin, on voit que de véhicules qui partent dans des territoires, ces véhicules sont surchargés. Tu vois comment un chauffeur, une main sur le volant, une autre main son téléphone en main, alors ça c'est une négligence. Et c'est ça les causes, les raisons même des accidents dans cette province-là.
La balle reste maintenant dans le camp de la police de circulation routière pour l'exécution de toutes ces mesures. Emmanuel Elamijoua Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Actualité internationale. La CEDEAO lève les sanctions contre le Mali et accepte la transition au Burkina Faso. Ces décisions ont été prises hier à l'issue du sommet de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à Accra, au Ghana. Les dirigeants du bloc ouest africain ont donc levé les sanctions contre le régime militaire malien, consentant à un retour à un régime civil en mars 2024. Les responsables de l'industrie d'Iran, de Turquie et de Russie ont exprimé leur volonté de concevoir et de produire conjointement des voitures, a annoncé le chef de l'association iranienne des fabricants de pièces automobiles. Il existe grande possibilité de coopération tripartite entre les constructeurs automobiles et les équipementiers des 3 pays, a déclaré Mohamed Reza Najafi Manesh, cité ce lundi par l'agence officielle IRNA, rapporte l'agence France Presse.
L'invité.
Mémoire, les plus belles années de ma vie. C'est le titre de l'ouvrage publié par Chantal Kanyimbo Manyonga, l'une des icônes de la télévision en RDC, journaliste présentatrice vedette du journal télévisé sur la RTNC, rapporteur au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, première femme à diriger l'Union nationale de la presse du Congo UNPC. Cet ouvrage de 296 pages paru aux éditions L'Harmattan dans la collection Compte rendu est préfacé par l'ancien premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ce livre a été porté sur les fonds baptismaux Turismo mardi dernier à Kinshasa. À travers cette autobiographie, l'auteur partage quelques moments forts de sa vie, partant de son enfance jusqu'à sa vie professionnelle, donne son témoignage sur certains événements qui se sont déroulés et se déroulent encore au pays. Chantal Kanimbo s'entretient avec Jean-Marc Matouaki.
Chantal Kanimbo, bonjour.
Bonjour.
Les plus belles années de ma vie, c'est déjà un titre qui incite à la lecture. Quelle est la démarche derrière la publication de ces mémoires, de cet ouvrage?
C'est bien dit, mémoire. Et donc, je suis dans le métier depuis plusieurs années. Je crois que ma pratique professionnelle a inspiré pas mal de vocations, effectivement, pour se lancer dans ce métier. Et donc, avec toute l'expérience que j'ai vécue professionnellement, tous les événements politiques que j'ai vécus depuis que j'exerce le métier de journaliste, je pensais qu'il était important de partager mon expérience, que c'était important d'écrire mes témoignages sur les événements qui se sont déroulés dans notre pays, qui continuent à se dérouler, sous mon prisme à moi, par rapport à ma perception, par rapport à mes convictions, par rapport à mes croyances. Et donc, j'ai pensé que c'était important d'écrire cette histoire, selon la journaliste politique que je suis. Mais comme ce sont des mémoires, j'ai pensé qu'il fallait y ajouter une dimension personnelle. On connaît peut-être Chantal Kanimbo par rapport à sa profession, mais on ne sait pas qui est Chantal Kanimbo. Et donc, j'ai ajouté une dimension personnelle par rapport aux événements que j'ai vécu dans l'histoire personnelle de ma famille, par rapport à l'adolescence, par rapport au phénomène de l'adolescence, par rapport à la découverte de la vie que j'ai fait. Et donc, je pensais que raconter cela me permettrait de me dévoiler un tout petit peu aux téléspectateurs ou au public qui me connaît beaucoup plus sur le plan professionnel que sur le plan personnel, parce que souvent dans les interviews que j'accorde, on a toujours cherché à me faire parler du côté privé et j'ai toujours refusé. Là, je pensais que c'était le moment de pouvoir me...
À quel moment vous avez pris cette décision de pouvoir publier ces mémoires?
Non, écrire, j'ai toujours pensé écrire le livre sur mon expérience professionnelle et donc j'ai finalement trouvé les créneaux qui m'allaient. Je pensais écrire un livre politique et puis j'ai dit non, qu'il ne soit pas seulement politique, que j'y ajoute aussi, comme je le disais, la dimension personnelle pour pouvoir me faire connaître.
La couverture de l'ouvrage est assez intéressante. On voit une Chantal Kanimbo très bien habillée. On va dire tirée à quatre épingles avec un costard et avec une couleur vive. On va dire, c'est prendre la vie du bon côté.
Oui, c'est la vie en rose. En fait, mon éditeur m'avait proposé de faire un shooting de plusieurs photos dans différentes tenues. Et donc, j'avais fait le shooting de photos et l'éditeur a choisi cette photo-là. Peut-être qu'elle était expressive par rapport au titre du livre, par rapport au contenu du livre. Et l'éditeur a choisi cette photo-là.
Vous êtes l'une des plus grandes icônes de la télé. On va dire, vous êtes notre Claire Chazal en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de jeunes, des jeunes dames surtout, quand ils viennent au métier, quand vous leur posez la question, les modèles, les premiers noms qu'elles citent, c'est votre nom. Qu'est-ce que ça vous fait?
Ça m'inspire de la fierté personnelle, la fierté d'avoir accompli ma mission, mon travail de manière professionnelle et tellement professionnelle que ça sert des références aux nouvelles générations, aux jeunes générations qui arrivent. Bon, moi-même, quand je voulais me lancer dans le métier, j'avais des références. Bon, c'était pas nécessairement des femmes, mais j'avais des références professionnelles qui m'inspiraient. Et donc, je pense que c'est naturel. J'ai pu inspirer surtout les femmes, mais je crois que c'est pas seulement les filles, mais les garçons également, de susciter des vocations pour ce métier qui m'a passionné depuis ma tendre enfance. J'ai toujours rêvé d'exercer le métier de journaliste et grâce à Dieu...
Vous ne regrettez pas d'avoir...
Non, je ne regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais. Mais le livre, il est vendu aux éditions L'Harmattan. Ici, j'ai personnellement décidé de faire venir un lot, mais on peut en trouver aux éditions L'Harmattan ici à Kinshasa, mais également à Paris, en physique ou en e-book, en PDF.
Chantal Kanimbo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, notre invitée est l'une des icônes de la télévision RDC, journaliste présentatrice vedette du journal télévisé sur la télévision nationale RTNC, rapporteure au CESAC et première femme à diriger l'Union nationale de la presse congolaise. Chantal Kanimbo répondait aux questions de Jean-Marc Matwaki Mofelele. Par ici s'achève ce journal, coordonné par Élisée Tikota Chivueta, sous la supervision de Ben Kabamba, Alain Goy à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.